Mon père, par rapport à notre recherche, il y a deux petites questions qu'on aimerait vous poser. Des questions qui touchent les rapports entre la prudence et les autres dimensions de la personne humaine. Premièrement, la recherche de vérité. La recherche de vérité est la seconde dimension de la personne humaine. Or, par nature, un homme intelligent veut savoir toujours plus. Il cherche à se dépasser. Comment peut-on mettre le dynamisme qui anime la recherche de vérité au service de la prudence personnelle? La prudence peut-elle mesurer la recherche de vérité?
Non. La recherche de vérité est beaucoup plus étendue que la prudence. La prudence est d'ordre pratique. La prudence évolue. Mes capacités d'intelligence, de volonté, de ténacité, de lutte. Je dois savoir ça. Est-ce que je suis capable pour le combat? Et dans quelle mesure je suis capable? Et cela, c'est ce que dit l'Évangile. Quand on doit commencer une bataille, on évalue les forces de l'adversaire. Et ça, c'est tout à fait prudent. C'est pas du tout la vérité. Donc, Jésus recommande lui-même qu'il est nécessaire pour l'homme d'être prudent. On est dans un combat constant. Il faut qu'on sache quel est ce combat. C'est de la prudence. Savoir qu'actuellement, par exemple, mais la métaphysique est rejetée. Alors, ça nous pose un problème nouveau. Est-il vraiment nécessaire de faire de la métaphysique? Ou est-ce que faire de la métaphysique, c'est tourner en arrière? Il faut donc qu'on évalue, par exemple, ce problème. C'est un problème nouveau. Ce problème ne s'opposait pas au Moyen-Âge. Tandis qu'il se pose depuis le progrès de la science. Est-ce qu'il ne faut pas mettre toutes nos forces dans le progrès de la science plutôt que dans la prudence? Plutôt dans la métaphysique. Oui. Donc, au fond, ce problème de la prudence est variable selon les époques. Quel est maintenant pour nous, quel est le point précis de la prudence? Pour être une vraie personne, le point précis de la prudence, c'est d'évaluer notre finalité et nos capacités d'atteindre cette finalité. C'est sûrement un rôle très important de la prudence actuelle, de rechercher tout le temps quelle est notre finalité. Ça ne se recherche plus. Alors, peut-on être encore prudent sans la recherche de la finalité? Non. Le monde est actuellement dans une imprudence folle. Jusqu'où ira cette imprudence, je n'en sais rien. Ça peut aller jusqu'à la destruction du monde. Problème nouveau de la prudence, les rapports de la prudence, les capacités de l'homme de faire, de réaliser quelque chose, et les connaissances. Toutes nos connaissances ne nous donnent pas des possibilités de réalisation. Et il y a un problème nouveau, une imagination très folle. Pour un homme du Moyen-Âge, notre imagination est vraiment folle. aller toujours plus vite, chercher par tous les moyens que le TGV aille plus vite, que l'avion aille plus vite, chercher par tous les moyens que les pneus soient... Tout est du côté de l'efficacité. Comme si on conquérait le monde. Alors, c'est intéressant de voir sur quoi la prudence se porte aujourd'hui. Et ce n'est pas vraiment la prudence. Hein. C'est beaucoup plus l'art. La prudence est comme, j'allais dire, est très diminuée par l'art. L'art pris de façon très générale, ce que l'homme est capable de faire. La prudence aujourd'hui, c'est considérer, par exemple, que les mathématiques prennent une place énorme dans les cultures humaines. Cette place énorme que les mathématiques prennent dans les cultures humaines font que le progrès humain n'est plus humain. Et c'est au fond un problème. La prudence, ça varie selon les pays où on est, alors que la recherche de vérité, non. Mais un homme prudent européen n'est pas le même qu'un homme prudent africain. Mais il y a une différence. La prudence varie suivant le milieu dans lequel on est. Et elle s'intéresse directement à ce milieu que je dois connaître pour que ce milieu ne m'arrête pas dans mes décisions, dans mon regard. Alors, quelle est la relation exactement entre le milieu et la prudence? Alors là, ça varie. Il y a des gens très prudents qui sont toujours très inquiets de ça, par exemple. Des espèces de monde qui avance, qui se développe dans un sens unique. Et n'équilibre plus les forces humaines. Le fait que la religion est en retard, c'est un déséquilibre pour la personne humaine. Et sûrement que la religion est un facteur d'équilibre, c'est un frein à l'orgueil humain. Elle est toujours plus loin et domine davantage. Oui, tout ça, c'est la prudence. La prudence étudie ça et essaie de le voir pour soi-même, dans quelle mesure je suis moi-même entamé par ça dans mes décisions.
Ce que la question soulignait aussi, Père, c'est de savoir comment est-ce que le dynamisme de l'intelligence peut m'aider dans ma recherche prudentielle.
Oui, parce que l'intelligence se développe de deux manières, d'une façon spéculative et d'une façon pratique. Donc, c'est le développement pratique de l'intelligence, la prudence, qui n'est pas le même que le développement spéculatif. Alors, c'est la question de savoir combien de temps je dois donner à mon existence pour comprendre ce développement pratique ou de comprendre ce développement spéculatif. Oui, et ça varie suivant les personnes.
Ce qui n'est pas facile à voir également, lorsqu'on regarde la prudence, en général, on parle d'un certain juste milieu, bien d'un autologos. Alors que lorsqu'on regarde l'intelligence dans sa quête de vérité, elle est une capacité infinie, une puissance infinie. Comment est-ce qu'on peut mettre en lien cette...
Équilibrer.
Voilà.
ces deux puissances, ces deux appels différents. Et je sais qu'en moi, il y a des appels multiples. Il y a l'appel affectif, l'appel de la vérité, l'appel de la réalisation du travail, l'appel de la présence. Ce sont des appels différents. Et parce que ce sont des appels différents, je vois qu'autour de ça, il se greffe quelque chose de la personne. Mais s'il n'y avait pas un appel prudentiel à demeurer très prudent dans un monde comme le nôtre, la prudence ne ferait plus partie de la personne. Et dans un certain milieu, l'aspect présentiel, si on fait une remarque de « Oh, c'est du vieux jeu », on ne fait plus ça. La prudence semble disparaître dans un milieu qui est commandé par les connaissances mathématiques. Je me suis demandé pourquoi. Alors là, c'est une autre question. Mais c'est une question qui intervient tout de suite. Nous sommes une civilisation mathématique. Nous sommes une civilisation scientifique. Et on n'en peut rien, on est comme ça. On fait partie de ce monde-là, actuellement. Et vous seriez né 100 ans avant, vous seriez différent. Cette formation scientifique permet les déplacements comme ça n'a jamais été. Une petite fille des Philippines, ses parents n'ont pas pris beaucoup de fois le train ou l'avion. Je me souviens, cette grand-mère qui passait, il voyait sa petite fille partir en avion. Et c'est la première fois que je mets le pied en avion. Et dès 10 ans, elle met ses pieds dans l'avion. Ça change tout, ça. Vous passez prétentiel. Parce que la présence, elle est au bout de nos pieds. Ça, c'est très important de sentir qu'est-ce qu'il y a de dominant dans la culture d'aujourd'hui et ce quelque chose de dominant, qu'est-ce qu'il va changer comme élément de la présence. Je n'ai pas la même position prudentielle dans un monde mathématique que dans un monde qui était uniquement rural. Et on voit très bien que la prudence joue tout le temps là-dessus. A priori, je prends quelque chose pour nous, a priori se développe différemment quand il se développe dans un coin où pratiquement on est resté très homme de la terre et la ville. C'est la même chose. Et c'est les mêmes individus. Ils sont obligés de prendre un regard différent. Ce qui montre bien, c'est parce que ce regard prudentiel, il est relatif à tel temps, telle circonstance.
Ouais.
L'amour est une source cachée qui transforme petit à petit notre manière de vivre.
Tu vois, moi.
Qu'est-ce qui, dans la prudence, permet à l'amour d'aller jusqu'au bout?
Selon qu'on a opté pour telle ou telle finalité dans notre vie. Vous optez pour une finalité contemplative. Vous optez pour une contemplation pratique. Même à l'intérieur de la congrégation, on voit très bien ça. La congrégation doit être contemplative, mais on voit une option. On voit une option très nette. Vous voyez, j'ai tel autre petit prieuré. Une option très nette et très différente. Et pourtant, il y a une base de formation qui était commune. Mais il y a une option ensuite, ce qu'on peut réaliser. Alors, si on veut chercher une phase contemplative, on sait que cette phase contemplative est infinie. Si au contraire on veut réaliser, on est un petit prieuré qui réclame de réaliser pour les gens qui sont là des progrès sociaux. Faire qu'on a des maisons plus salubres, on a des engagements qui sont différents. C'est tout à fait différent, comme orientation. Moi, je le vois déjà, la congrégation est une. Oui, elle est une. Et en même temps, pour le développement de tel couvent, en fonction d'un tas de choses différentes, fait que l'option sur les moindres petites choses est différente. Et la place qu'on mettra à l'oratoire dans une petite communauté, c'est extrêmement significatif. Et je pense oratoire parce que c'est toujours ce qui tape directement la vision. On va prendre l'heure des repas. Il y a des options comme ça qui sont potentielles et qui modifient énormément la formation. C'est au fond très souple, la formation personnelle. On s'aperçoit à certaines choses que ces options étant très différentes, la finalité risque de disparaître.
Pourquoi cela, Père?
Oui, la finalité risque de disparaître parce que, de fait, on a déjà fait une série d'options des choses tout à fait pratiques sans regarder la finalité. Alors on s'est soi-même mis dans cet élan et on se dit situation comme ça. Alors quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas vu l'évolution interne, est stupéfait. Quoi, vous êtes encore de Saint-Jean, ce que vous faites, c'est tout à fait un prêtre qui n'a aucune ambition de vie contemplative, vrai. Et on doit remettre la chose au point. C'est pour ça qu'il est bon que ce soit un petit prêtre. On doit faire cette remarque et on doit la souligner. C'est pour vous montrer la souplesse de la prudence pratique dans la formation de la personne. La souplesse de la prudence pratique pour chacun d'entre nous. Hein ? Vous disparaissez ? Oui, c'est la souplesse de la présence pratique. Bon. Alors, la prudence est un bien indispensable pour la personne. Qu'elle me permet de gouverner ce petit bateau. Elle me permet d'ordonner toute la richesse que j'ai. Et je l'ordonnerais différemment si j'avais des visions différentes au point de vue prudentiel. Ce qui est au fond le plus important dans la prudence, c'est la relation entre les moyens d'action et ma finalité. Et c'est donc très très important. Parce que bon, dès que je fais un examen de conscience, je fais l'examen de conscience toujours entre la finalité et les moyens. Est-ce que je me suis foué dans une impasse sans voir la finalité ? Est-ce que j'ai fait assez attention ? Les moyens, ça varie, les moyens. Les moyens, ça fait partie des vitrines. Ça varie selon les époques. Selon les villes, la finalité, vous la portez en vous. Elle est toujours la même. On dit que les moyens, ben oui, c'est, vous dépendez des autres dans la réalisation des moyens. Venez s'établir à Saint-Jean-d'Arc. Un petit foyer chinois qui était là pour la vente de tableaux. Non, c'était extrêmement significatif. Vous voyez, Saint-Jean-d'Arc faire un foyer pour la vente des tableaux. Alors, si on réfléchit un instant, on dit, il y a une autre raison. Le camouflage est différent. On commence à savoir en Chine que Saint-Jean-d'Arc n'est pas indifférent à la Chine. Alors vite, on expédie un petit foyer, voir là-bas tous les renseignements sur Saint-Jean-d'Arc. Ils sont renseignés d'une façon extraordinairement bien. Maintenant, il est parti. Les renseignements suffisent. Mais alors ça fait partie de la prudence. Il faut que je fasse attention quand je vois ces gens apparaître pour telle ou telle conférence. Je ne veux librement, complètement, si je n'étais pas là. Et là, je suis obligé de faire attention. Et ce serait une imprudence folle de dire non, il ne faut pas s'inquiéter. Pas du tout. Ils peuvent fréquenter le couvent et puis arriver. On a par instinct, par charité fraternelle, on est plutôt confiant. Dès qu'on voit quelqu'un qui arrive au couvent, on est confiant vis-à-vis de lui. Et on ne va pas se mettre à prendre la prudence. Je vais être indifférent dans ma prudence à quelqu'un qui, comme là, étranger, établi, avec un métier qui ne correspond pas tout à fait aux besoins du pays. Alors, je me dis, il y a une autre raison. Faire attention. L'homme, il serait imprudent qu'une espèce d'importance. Alors, de plus en plus, je crois que la prudence exige de nous d'être le plus informé possible pour connaître le milieu dans lequel on est, connaître si dans ce milieu il y en a qui sont là pour inspecter, pour savoir, pour connaître, et on n'a pas le droit de se livrer. Ça n'aurait sûrement pas existé il y a 50 ans. Chinois s'installant comme ça dans un petit patelin pour vendre des tableaux, c'est trop criant. Mais ça peut exister dans notre monde d'aujourd'hui. Ce qui fait que notre prudence varie et en fonction de on a été pris par une inspection. Ces gens-là ont une nouvelle table. Pour nous, un regard très différent pour connaître le plus de choses possibles. On vit dans un monde où les renseignements, où les communications depuis 50 ans, 100 ans, ont été complètement changés. On n'est plus chez soi, dans un langage. Avant, on avait sa petite maison, on était bien tranquille, personne ne nous entend, personne ne nous écoute. Aujourd'hui, chez certains, ça joue terriblement, ça. Et il y a des personnes, on va faire attention, on ne va pas parler. Alors, je vous emmène dans un coin. Puis, on est sûr qu'il n'y aura pas de possibilité d'entendre. On vit par le fait même dans une inquiétude beaucoup plus forte. Il n'y a pas le sentiment d'être à l'ombre de tout, loin de toute espèce de renseignement, on nous laisse tranquille. Il n'y a plus ça. Et je crois que ces éléments-là, je prends ces éléments-là, ça nous fait très bien comprendre ce que c'est que la prudence. Et ça nous fait très bien comprendre comment la prudence joue un rôle beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Parce que les communications sont beaucoup plus fortes. Le domaine des communications, alors ce domaine des communications change tout au bout d'un certain temps. Si on veut garder sa liberté, si ça m'est égal, on dit, tant pis, ça n'a aucune espèce d'importance, bon, ça c'est autre chose. Alors, on vit à ce moment-là en quelqu'un qui. Ben, c'est ça. Et là, vouloir dépasser ça et qu'on puisse rester tranquille, ben, on aime mieux garder la paix que d'entrer dans la bagarre. C'est ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le monde deviendra impossible. Pour nous, la prudence, oui. On sera obligé d'être constamment imprudent pour pouvoir vivre. Et être constamment imprudent, chez certaines personnes, ça les empêchera complètement d'agir. Elles sont trop sensibles. Elles n'agiront plus. Pour d'autres personnes qui sont plus fortes, il y a une sélection de personnes qui se font. Les personnes plus fortes peuvent dominer ce genre de procédé. Mais les personnes plus faibles, non. Elles sont complètement dépendantes de ça. La prudence est un champ, un secteur extrêmement important pour comprendre ce qu'est la personne. Parce qu'elle se dévoile à travers les décisions qu'on prend. Un prieur se dévoile à une communauté qui ne le connaît pas par les premières décisions. Et il se dévoile toujours par ses décisions. Un peu comme ça. Préciser. Et la prudence est absolument indispensable pour agir. Donc, c'est quelque chose de très très important pour nous. De se réserver des lieux où on soit complètement chez soi. C'est indispensable même. Parce que je crois qu'un homme prisonnier peut vivre quelques années prisonnier, mais vivre tout en prisonnier, ça fait qu'il change. Or, il vit prisonnier s'il est trop surveillé. Alors, évidemment, la prudence est une vertu qui lutte contre l'imprudence. Alors, le facteur d'imprudence varie comme le facteur prudentiel, ça varie. Quelquefois dans un endroit, il vaut mieux pas agir et dans un endroit ne pas agir, c'est une souveraine imprudence. Oui, la prudence elle-même varie suivant les différents contextes. Après la prudence comme élément essentiel, c'est l'art. Je crois que la tension est tendue. La plus grande de notre vie, c'est l'art et la prudence. Les portons, nous ça. Nous avons en nous l'artiste et le prudent. Et l'artiste n'est pas précisément le prudent. L'artiste, il est celui qui aime du nouveau, qui aime de changer. Et là, on lui dira, oh, soyez prudent. C'est quoi? Non, ça me dégale. Et ils font exprès des choses qui sont terribles. L'art est une activité aussi personnelle, est-elle facultative? Et je peux me poser ça aussi au point de vue de la prudence. Est-ce que c'est facultatif? Non. Je dirais, la personne humaine nécessite la prudence. Est-ce que la personne humaine exige l'art? C'est une question très délicate, ça. Je crois que n'avoir aucun sens de l'art, on peut le prendre très varié. L'art, c'est le sens de ce qui vient de l'extérieur. Le chant, la musique. Réalisation artistique, architectonique. Donc, c'est celui qui est particulièrement sensible aux choses extérieures. Je crois que n'avoir aucun sens artistique, c'est un défaut pour la personne. Je crois que le développement d'un sens artistique, c'est le développement justement du côté original de chacun d'entre nous. Sens artistique nous permet de respecter ce sens artistique, ce sens de l'autre. Un artiste est souvent très respectueux d'un autre artiste. Il y a des jalousies qui peuvent le pousser et le rendre moins respectueux. C'est négatif, c'est le côté d'opposition. Autrement, on doit faire attention à la personne humaine en tant qu'elle est capable de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. On est tous artistes de son milieu. Oui, c'est très curieux, ça. On est artiste dans l'organisation de sa maison. On est artiste dans l'organisation, pour nous, de notre vie. Ce qui montre bien que la dimension artistique fait partie essentielle de la personne, est un élément essentiel. La supprimer, faire que... Non, le marxisme, dans un certain marx, supprimer. On ne peut pas la supprimer parce que ce serait empêcher un vrai développement original de la personne. C'est le développement original de la personne. L'artiste, il est... C'est son individu. C'est l'individu qui a telle ou telle chose spéciale. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de développement artistique. Pour savoir goûter la beauté. Ne pas goûter du tout la beauté du monde dans lequel on est, du milieu dans lequel on est, c'est un défaut. Et c'est un défaut personnel. Parce que ça se répercutera dans tout ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui ne sera pas suffisamment original de nous. Si l'artiste, comme artiste, est très original, c'est-à-dire qu'il est unique, et il ne s'occupe pas beaucoup de savoir... Pourquoi il est unique ? Il est unique parce qu'il fait, parce qu'il est capable de faire ce que d'autres ne sont pas capables de le faire. Je crois que s'il n'y avait absolument rien d'artistique dans notre vie, de personnel, d'individuel, de notre marque. Oui, ce n'est pas voulu. Celui qui veut marquer sa présence, marquer son individualité, souvent la marque trop fort. Alors ça devient insipide. Parce que ce n'est pas finalisé, c'est mal finalisé, c'est taillé n'importe comment. La taille de certains arbres, aujourd'hui, on voit ça un peu partout, donc il n'y a plus rien d'original là-dedans, mais ça fait penser à la taille de certaines personnes. Mais une éducation à la manière des tailles des arbres, c'est-à-dire tout à fait dans le même sens de la taille de l'arbre, et forcément l'éducation. Voilà, la fragilité. Et le côté individuel, donc le côté qui est particulier, qui est quelquefois très secondaire, mais qui est mis en pleine lumière et en pleine valeur pour avoir l'air de faire quelque chose d'original. On voit certaines œuvres d'art comme ça. On se dit, mais qu'est-ce que ça signifie, cette œuvre d'art? Et ça ne signifie rien du tout, si ce n'est qu'on veut être original. Et au fond, vouloir être original pour être original, c'est ce qui détruit le plus l'art. Parce que l'art reste humain, reste personnel. Là. Et comme il y a un excès de prudence qui supprime notre personnalité, il y a un excès d'originalité qui supprime le point de vue artistique. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.